peut-être un point, effectivement. C'est une séance qui s'inscrit dans un séminaire qu'on a mis en place, je crois, en septembre, hein, séminaire franco-américain. Donc, en vue d'organiser un produit, certainement un livre, ou peut-être aussi un séminaire général ou un colloque, on verra. Donc, il y a 4 ou 5 collègues américains, mais qui sont aux États-Unis. Et ici, on est 3 ou 4, hein, si je ne me trompe pas, parmi les auteurs. Et le principe, grosso modo, c'est effectivement d'aborder la question des conflictualités dans les deux pays, sachant qu'elles se présentent de façon très différente. Par exemple, en Californie, il y a eu de grandes luttes des femmes de chambre dans les hôtels, avec une spécificité, beaucoup de latinos, etc. Et c'était des femmes. Donc, il y a des éléments comme ça qui nous semblaient très intéressants à considérer là-bas, d'autant plus qu'en France, les contextes de lutte se présentent de façon différente. Alors, la méthode qu'on a eue jusqu'à présent, c'était plutôt de prendre États-Unis d'un côté. Alors, il y a eu Kesselman qui est venu à la première séance. Il y a eu Martin Schein qui est venu à l'avant-dernière. Et des Français qui nous parlent de la France. Là, on va faire autre chose ce soir, un autre exercice, puisqu'on va un peu plus hybride, puisqu'on va parler de l'américanisation, donc venue des États-Unis, de la France. Tentative d'américanisation de la France. Parce qu'il nous semblait intéressant aussi de considérer, dans le cadre de notre réflexion dans ce séminaire franco-américain, cet aspect-là, qui à bien des égards d'ailleurs, hein, a été assez oublié, en tous les cas pour, disons, pour les plus jeunes générations. Alors, américanisation de la France, moi, ma spécialité, c'est les syndicats, la négociation collective, les conflits sociaux, les régulations politiques, le droit du travail, enfin, tout ce qui concerne ce que les universitaires appellent soit les relations industrielles, soit les relations professionnelles. Et bien sûr,
bonsoir.
Et bien sûr, c'est par rapport à ces deux aspects-là que j'évoquerai les choses. Alors, simplement, un point, quand on parle d'américanisation, pour aller vite, des rapports sociaux de l'entreprise, c'est vrai qu'on peut dire que l'entreprise française s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup américanisée au cours, disons, des 30 ou 40 dernières années. Le globish est devenu la langue banale. Dans certaines entreprises, des grands groupes, les cadres français entre eux communiquent, lorsqu'il s'agit d'envoyer des textes par mail, etc., en anglais directement, pour éviter les frais de traduction. Enfin, bon, bref, sans compter que les façon de manager, management, typiquement américain d'ailleurs, s'inspire énormément de tout, de tout, de tout, de toutes les pré-recommandations qui sont faites aux États-Unis. Donc l'entreprise est très américanisée aujourd'hui. Il suffit de voir, pour quiconque connaît un peu la culture des grandes écoles de gestion, de commerce, HEC, Subdeco, ESSEC, etc. Bon, d'ailleurs, ils s'appellent tous Business School. Même révélateur. Et puis à côté, il y a une espèce de noyau, un peu comme l'enclave d'Astérix, les rapports sociaux, c'est les relations entre les employeurs et les syndicats, qui précisément semblent résister, y compris, j'y reviendrai aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, c'est d'essayer d'analyser sur la longue durée ce processus d'américanisation pour voir ce que cela a pu donner, étant entendu qu'il y a, disons là-dessus, pas mal d'interprétations qu'on évoquera. Alors, peut-être une définition, parce que ça m'apparaît toujours très important de dire ce qu'on entend par américanisation. C'est pas simplement les fast-food, bien sûr. Dans l'entreprise, c'est quoi? C'est l'acceptation pleine et entière de l'économie de marché. Ça, c'est avec son pendant politique qui est le refus de toute intervention de l'État au niveau des règles produites dans l'entreprise, au moins intervention centralisée, parce que même s'il y a des interventions à divers niveaux. Le deuxième élément, c'est la reconnaissance du pouvoir exclusif de l'employeur ou du commandement. Il n'y a pas de pouvoir partagé. Et le troisième élément, c'est sur lequel on reviendra dans la troisième partie, dans la seconde partie, c'est la primauté de l'entreprise comme base de tout rapport social de la négociation collective. Vous avez vite compris que El Khomri Macron, ce n'est plus ni moins qu'effectivement ce basculement total, syndicat parle d'inversion des normes, des niveaux nationaux à l'entreprise. Alors, ça, c'est effectivement bon, les trois éléments qui peuvent définir la... qui peuvent définir ce que peut être l'américanisation des relations sociales dans l'entreprise. Alors, moi, l'hypothèse que je défendrai devant vous, et que je défends ailleurs, bien sûr, c'est de dire qu'en réalité, contrairement à ce que l'on croit, y compris aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion, bien sûr, de m'expliquer, l'américanisation des relations sociales en France, ça a été un échec, ou au mieux, un leurre. J'irai même plus, ça a été un peu l'exception française. Parce que l'américanisation, après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, etc., j'y reviendrai, s'est beaucoup étendu et a été très très efficace du point de vue, effectivement, je dirais, de l'alignement idéologique des rapports sociaux dans beaucoup d'entreprises des pays européens. Or qu'en France, il y a eu une espèce de noyau dur qui a fait que cette américanisation n'a pas eu beaucoup de succès. Alors, pour parler de cela, je vais faire quelque chose d'assez hérétique, puisque je vais prendre deux moments historiques. Le moment de l'après-guerre, où l'américanisation bon, se donne en tant qu'elle-même, et le moment très récent, que j'appelle le moment Macron et El Khomri, mais qu'on pourrait appeler autrement, parce qu'il y a eu des évolutions qui pourraient faire que, effectivement, les choses ressemblent de plus en plus aux États-Unis, et pourtant, il y a des éléments qui montrent que ce n'est pas aussi simple que cela. Donc deux moments séparés par presque un demi-siècle d'histoire, pour aller vite, mais qui me semblent très très pertinents du point de vue de leur signification, donc je romps avec la chronologie habituelle, mais qui me semblent très pertinents du point de vue de leur signification en termes gérés idéologiques et politiques. Premier moment, donc le moment de l'après-guerre. Je pense que la plupart d'entre vous ici connaissez bien beaucoup de données de ce moment-là, donc je passerai très vite, quitte à y revenir dans la discussion, sur les moments très forts du point de vue syndical et très forts aussi du point de vue des missions de productivité pour expliquer pourquoi ce moment a échoué, alors qu'ailleurs, ça a marché. Quand je dis ça a marché, on peut aller même très loin. Un simple exemple, c'est vrai que l'Allemagne, après-guerre, c'était un pays qui était défait. Ce sont les troupes alliées, et notamment les Américains, qui ont mis en place le système de relations sociales en Allemagne, y compris avec la co-gestion. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle d'américanisation, ce n'est pas simplement un état d'esprit disant que finalement, les communes marchaient, c'était pas si mal que ça. Non, non, c'est vraiment une intervention tout à fait importante. Alors, la première période, c'est la période de l'après-guerre. Alors, l'après-guerre, c'est d'une part, bien sûr, ce qui va se produire au niveau d'un contexte tout à fait particulier, qui est la guerre froide. On ne peut comprendre, grosso modo, ce qu'il va se passer du point de vue des relations sociales en France, et ça j'y insiste, que par rapport à ce contexte beaucoup plus globalisant, qui est la guerre froide. En France, il y a une CGT. Une CGT composée d'un côté de ce qu'on peut appeler très rapidement la CGT Frachon, proche du Parti communiste, comme disait Le Monde, et d'un autre côté, la tendance force ouvrière, qui était dans la CGT sur une base réformiste, puisque la tendance force ouvrière, c'était la CGT majoritaire de l'entre-deux-guerres, qui avait été créée notamment par Léon Jouvet. Donc Frachon, Jouvet. Ces deux-là se sont réunis en 1936, scission avec le pacte germano-soviétique et réunification dans le cadre de la libération avec les fameux accords du Pérou. Une CGT, mais alors avec deux tendances très distinctes. Une tendance social-démocrate et réformiste, une tendance révolutionnaire, très proche du Parti communiste, etc. Et considérer la CGT ainsi, alors il y a eu énormément de travaux d'historiens, je n'y reviendrai pas, c'est bien. Mais c'est totalement insuffisant si on ne resitue pas la CGT de l'époque et la scission qui interviendra avec FO dans le contexte simplement des relations internationales. Relations internationales, c'est quoi ? En Europe, bon, il y a l'avancée, si je peux dire, du modèle communiste qui s'instaure dans des pays de plus en plus nombreux en Europe centrale, c'est connu. Mais en Europe occidentale, il y a quand même trois éléments très importants. D'un côté, une guerre civile en Grèce qui va faire des dizaines et des dizaines de milliers de morts, qui va s'étendre grosso modo de la libération de la Grèce à 1949 avec une intervention très très directe, notamment des troupes anglaises, en faveur bien sûr des Blancs, on ne les appelait pas ainsi, mais c'était tout comme. En Italie, des zones entières de l'Italie qui restent aux mains des francs-tireurs partisans et un parti communiste italien qui est à deux doigts d'arriver au pouvoir par la voie de l'élection démocratique. Beaucoup de choses ont été écrites pour dès que les élections aient été suffisamment trafiquées à l'époque pour qu'effectivement le PCI n'accède pas au pouvoir. Et en France, 47-48, des grèves extrêmement dures qui vont toucher des secteurs, les mines, qui vont toucher des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, etc., qui vont s'étendre sur des semaines et des semaines, des mois et des mois, et qui présenteront à certains égards, je dirais, ce que le ministre socialiste de l'époque, Jules Moc, appelle des grèves insurrectionnelles pour lui, puisqu'il va faire entrer, ni plus ni moins, que les chars et les troupes d'élite à l'encontre des mineurs, et c'est des dizaines et des dizaines de morts que l'on compte dans cette période-là. C'est-à-dire, quand on nous parle des gilets jaunes, quand on nous parle des conflits d'aujourd'hui, c'est quand même un tout autre contexte. Donc, on voit un contexte de flamboiement social et politique tout à fait important, où, du côté des forces alliées, en particulier les Américains, on se dit, la France, l'Italie, la Grèce risquent de basculer dans le communisme. Et c'est là où, contrairement à ce qu'on nous raconte souvent, c'est-à-dire on dit « oui, la CIA, etc. » Non. Je reste maintenant la question sociale. Pour beaucoup d'auteurs américains, l'AFL, qui était à l'époque le principal syndicat américain, Marianne a beaucoup travaillé sur l'AFL, est considéré comme le vecteur central de la politique internationale et européenne conduite par les États-Unis au niveau de l'Europe occidentale. D'autant plus que, dans ce contexte, on avait à l'époque une seule grande fédération syndicale mondiale à côté de la fédération catholique. C'était la fédération syndicale mondiale qui réunissait tous les syndicats des pays, bien sûr, on dirait d'Europe centrale, mais aussi, et on l'a oublié cela, tous les syndicats occidentaux, dont l'AFL, la CIO et naturellement les Trade Union Congress. Vu le contexte de guerre froide, vu effectivement le fait, c'est ce que disent les Américains, la FSM, on l'appelait l'Internationale de Prague, les Américains disent que c'est une internationale qui est totalement tenue par les syndicats proches de Moscou. Donc ils sortent de cette internationale, syndicat anglais-américain, pour créer la Confédération internationale des syndicats libres. Libre, ça veut bien dire ce que ça veut dire, monsieur. Qui aujourd'hui existe toujours, puisque c'est la fameuse CSI. Donc on voit un contexte tout à fait particulier, par rapport auquel la France ne va pas être à l'écart, puisque tout simplement, il va y avoir une scission au sein même de la CGT qui va donner lieu à Force ouvrière, dont les principaux dirigeants reconnaissent aujourd'hui qu'elle a été totalement aidée par les syndicats américains, voire même par la CIA. Moi, j'ai eu un débat avec Blondel qui me disait « Mais tout ça, c'est des vieilles lunes, on ne va pas nous agacer. Tout le monde le sait. » C'est plus un secret, parce qu'il y a eu pas mal de gens. Donc, Force ouvrière va se créer dans ce contexte-là et ça va être tellement important que, par exemple, Force ouvrière va être à l'initiative de la création de la CISL et, ce que peu de gens savent d'ailleurs en Europe, ça me surprend beaucoup, à l'initiative de la création de la Confédération européenne des syndicats libres, qui est ni plus ni moins que la filiale en Europe de la Confédération internationale des syndicats libres et qui aujourd'hui s'appelle CES. Donc, on voit là émerger une division syndicale avec un syndicat qui, effectivement, s'aligne totalement sur la Confédération internationale des syndicats libres et les deux grands syndicats anglo-saxons, c'est-à-dire l'AFL d'un côté et le Trade Union Congress de l'autre, avec des moyens colossaux au point de vue financier, etc. FO n'ayant que peu d'adhérents, il fallait bien qu'ils vivent, et indépendamment du soutien du pouvoir politique français, eh bien, la plupart de leurs subsides provenaient à l'époque de cela. Alors là, il y a eu d'excellents bouquins qui ont été faits. Et tout ceci, je veux dire, ça n'a rien de secret. Par exemple, Irving Brown, dont on parlait tout de suite, le dirigeant de l'AFL, ça n'est jamais caché. Il disait effectivement, la lutte principale de l'AFL au niveau des entreprises, c'est de lutter contre l'influence communiste dans ces entreprises et donc de susciter la création de syndicats de plus en plus nombreux pouvant s'opposer, donc, bien sûr, pour la France à la CGT, pour l'Italie, c'était la CGIL, la CGIL, pardon. Donc, premier point, on voit un paysage syndical tout à fait nouveau qui existe encore, bien sûr, en des termes très différents. Second point, c'est les fameuses missions de productivité qui naissent effectivement du plan Marshall. Alors, le plan Marshall, c'est un plan énorme d'aide à la reconstruction économique de l'Europe qui a été fait par justement quelqu'un qui s'appelait Marshall, tout simplement. Et où on va, du côté américain, mettre en place des politiques. Le plan Marshall, c'était des aides extraordinairement conséquentes, hein, de façon budgétaire et financière, aux pays européens qui étaient bien sûr tous ruinés par la guerre. Il faut se rappeler par exemple une chose, De Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, l'une des premières choses qu'il va faire, sur laquelle il va s'engager, c'est la libération de la France par rapport à la dette américaine. Ce qu'il réussira d'ailleurs, Marianne, c'est 62-63, il me semble, enfin, ça va. En 5 ans, la France se libère de la dette américaine, justement parce que c'était quand même quelque chose de très très important. Alors, plan Marshall, ça consiste tout simplement au départ, il y a une association française pour l'accroissement de la productivité, ça consiste simplement à organiser des séjours, des visites, des conférences, etc., aux États-Unis, où sont invités des employeurs français, des syndicalistes français, bien sûr, et mais aussi des enseignants, des experts, enfin, des gens de tout ordre. Il s'agissait de mettre dans la tête de beaucoup de gens, de beaucoup d'acteurs sociaux, le modèle américain, avec un but, promouvoir l'idée de la libre entreprise et de l'efficacité économique. Entre parenthèses, c'est la première fois qu'en France, dans les rapports contractuels, la notion de productivité, on en parle beaucoup aujourd'hui dans les négociations, etc., va apparaître. Parce qu'avant, c'était seulement étranger. Alors, cependant, parce qu'il fallait effectivement ne pas présenter les missions de productivité comme de simples missions à but économique. Les missions de productivité, c'était avant tout, donc je viens de le dire, promouvoir l'idée de la libre entreprise et celle d'efficacité économique, mais avec un pendant social qui ressortait du New Deal de Roosevelt, c'est-à-dire une large politique de redistribution des profits en faveur des salaires et pour cause, puisque on était dans les Trente Glorieuses et le but, c'était d'installer un capitalisme de consommation de masse qui a été très très bien étudié par des gens de l'école de la régulation comme Boyer, Aglietta, etc. Alors, dans les missions de productivité du côté syndical, c'est très simple, qui y participe, Force ouvrière et la CFTC. Parce que la CGT, elle se sentait totalement étrangère aux buts et aux objectifs voulu dans le contexte donc des missions de productivité. Alors on voit intervention directe sur le monde syndical français avec la constitution de la troisième grande confédération FO et d'un autre côté une politique de soutien économique qu'on va appeler les missions de productivité où il s'agit en quelque sorte de faire partager au plus grand nombre d'acteurs dans l'économie le modèle américain. Quand on regarde l'influence de tout cela, on s'aperçoit d'une chose, un échec réel, malgré tous les moyens mis en œuvre. Un échec réel, je le répète, qui est très spécifique à la France. Ailleurs, les choses ont bien marché. Alors pourquoi cet échec? Alors je crois que là, il y a 3 ou 4 raisons qu'on peut évoquer. La première raison, si on regarde FO, donc, qui est une émanation de la FL-CIO, de la FL, pardon, et puis ensuite de la CIO, ces effectifs ont toujours été beaucoup, beaucoup plus faibles que ceux de la CGT, mais aussi de la CFTC de l'époque. C'est un premier point. Second point, alors que les missions de productivité intéressaient en premier lieu l'industrie, puisqu'on parlait de compétitivité, de productivité, une des particularités de FO a été que son implantation dans l'industrie était très très résiduelle. Elle était surtout implantée dans la fonction publique, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, ou dans le secteur parapublic, y compris d'ailleurs avec des aides du pouvoir politique français qui voulaient éviter que certaines organisations syndicales comme la CGT s'introduisent dans des ministères particulièrement sensibles. Je prends par exemple les finances, je prends par exemple l'armée, enfin la défense, etc. Et c'est pas pour rien, par exemple, que FO a toujours eu une position prééminente et aux finances, parce que c'était des secteurs tout à fait sensibles. Donc, un syndicat soutenu, effectivement, qui était normalement porteur de l'américanisation des rapports sociaux et qui va se retrouver cantonné à des activités liées à la fonction publique, alors que les deux autres syndicats, la CFTC et la CGT, étaient, elles, bien implantées dans le milieu ouvrier qui étaient les premiers concernés. Et enfin, dernier élément qui est le plus important, c'est que la CGT, à l'époque, était, bon, c'est banal que de le dire, opposée à l'impérialisme américain, à l'influence américaine dans l'économie française. On connaît ses positions de l'époque. Elle se disait non seulement syndicalisme de masse, mais syndicalisme de classe. René Mourieux a fait de très très bons travaux là-dessus, liés masse et classe. D'une part, elle était très très liée, bien sûr, au Parti communiste français. Le modèle de production, le modèle social qu'elle favorisait, c'était bien sûr le modèle qui existait en Europe de l'Est, le modèle soviétique, etc. Je rappelle tout cela pour dire effectivement qu'elle soit anticapitaliste et communiste et aussi la libre entreprise, tout ça, c'est bon, aujourd'hui des évidences. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les idées de la CGT étaient très très largement partagées dans le monde du travail, et pour preuve, non seulement la CGT à elle seule avait plus d'adhérents que les deux autres grandes confédérations réunies, CFTC-FO, et surtout dans les élections professionnelles de l'époque, elle avait quasiment, et ceci jusqu'au milieu des années 60, la majorité absolue, pas simplement dans les collèges ouvriers, mais aussi dans le deuxième collège. C'est-à-dire la CGT, c'était un syndicat qui faisait 52-53%. Donc on voit que, effectivement, la présence de l'influence d'un syndicat comme la CGT a très très largement entravé sur le terrain, je parle là du terrain, tous les efforts qui avaient été faits en la matière. Et il y a aussi autre chose qui est beaucoup plus spécifique à la France, qu'on pourrait retrouver autour de, je dirais, trois facteurs. Le premier, c'est l'intensité et la radicalité des mouvements sociaux en France, notamment par le fait de la grève. Là, je vais vous donner simplement quelques chiffres qui permettent de tout de suite bien préciser le problème. Au niveau national, entre 1950 et 1959, pour 1000 salariés, on comptait en France 83 grévistes, en moyenne nationale, sur 10 ans. En comparaison, aux États-Unis, c'était 36 grévistes, pour 1000 salariés toujours. Au Royaume-Uni, 28, en Allemagne, 6. Donc on voit qu'au point de vue taux de grève, la France était évidemment un pays particulièrement, je dirais, présent sur le terrain des luttes de grève. Deuxième élément, c'est l'intensité des conflits. En règle générale, les conflits sociaux à l'époque, notamment les conflits ouvriers, étaient des conflits qui étaient souvent très durs. Occupation d'usines, séquestration de cadres, affrontements très directs avec les forces de l'ordre. Il y avait au Creusot, à Saint-Nazaire, à Caen, dans les chantiers navals, etc. Bon, en règle générale, il n'était pas rare de voir des grèves qui débouchaient sur des affrontements, je dirais presque de type militaire, entre ouvriers, parmi les mineurs aussi, bien sûr, entre ouvriers et forces de l'ordre. Et ça, évidemment, c'était assez inexistant dans la plupart des autres pays européens. Donc il y avait un contexte, je dirais, de radicalité des esprits qui était extrêmement élevé, avec bien sûr un ciment qui était celui du syndicat, d'une part, surtout CGT à l'époque, et bien sûr du monde ouvrier. Enfin, et c'est intéressant de voir que la dimension idéologique ou politique du syndicalisme était extrêmement forte. De ce point de vue, il y a un grand classique qui a été écrit par deux auteurs américains, Charles Tilly et Shorter, j'ai oublié son prénom, dans les Annales, qui a été paru sur les grèves en France, et qui expliquait la chose suivante. Ces deux auteurs ont comparé la période de l'après-guerre, puis les mouvements de grève en 68. Et ce qu'ils nous disent, au fond, ces grands mouvements de grève, contrairement aux États-Unis, contrairement à la Grande-Bretagne, contrairement à l'Allemagne, contrairement à d'autres pays du nord de l'Europe, avaient très fréquemment des buts et des enjeux purement politiques. Ils disent, alors, c'est des grosses études, hein, avec des batteries, des échantillons de grève énormes, puisque les grèves de 47-48, le but central, c'était de faire échec au plan Marshall. Et celle de 68 avait pour but tout simplement de chasser De Gaulle de l'Élysée. Ils disent ça, ils se disent tous les deux, c'est une particularité du contexte français. Et je les cite, la France diffère de l'Amérique du Nord parce que les grands conflits industriels qui s'y déroulent menacent de se transformer très vite en conflits, voire en révolutions politiques, et que les conflits moins importants font partie du lot quotidien de la vie politique. Alors là, bien sûr, on a une rupture totale, radicale, avec le modèle américain. On a une excellente spécialiste là, du syndicalisme américain, à ma droite, de Marianne de Bouzy, historienne, et effectivement, elle pourra peut-être dire des choses là-dessus. Quand on a dit cela, eh bien, on voit que finalement, l'américanisation des rapports sociaux dans l'entreprise en France a été un échec. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi parce qu'effectivement, il y avait, bon, ce qu'on appelait à l'époque un contexte de lutte de classe et une présence de forces politiques et syndicales telles que le modèle américain n'a pas pu s'imposer comme il a pu s'imposer ailleurs. Alors bien sûr, l'histoire jouant, on peut nous dire aujourd'hui, mais bien, d'accord, très bien, ça c'est du passé, c'est vieux, c'est de la muséographie historique. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez pas mal de travaux qui expliquent qu'incontestablement, bon, ils ont raison, que ramener la négociation collective au niveau de l'entreprise, c'est toucher l'un des points essentiels du modèle américain ou anglo-saxon plus généralement, où précisément c'est l'entreprise, et je dirais presque seulement l'entreprise, où la négociation collective et les représentations, et les rapports, pardon, syndicat-employeur existent. Et incontestablement, quand on regarde tout ce qui s'est produit, alors bon, je dis le moment, elle comrie Macron, en fait, je pourrais dire le moment Fillon également, etc., parce que c'est un processus qui s'est étendu sur plus d'une trentaine d'années, en réalité, hein, c'est-à-dire remplacer toutes les négociations au niveau national, notamment au niveau des branches, etc., par la primauté de l'entreprise avec l'inversion des normes. Tous les récents conflits, je vous apprends rien en disant cela, les conflits contre la loi El Khomri, les conflits contre Macron, c'était bel et bien ça qui était au cœur même du conflit. Pour, naturellement, les syndicats qui s'opposaient à l'inversion des normes. Alors, c'est intéressant de voir que là aussi, l'entreprise, aujourd'hui, si elle est née, elle est née à côté d'un autre aspect historique qui a beaucoup marqué la particularité de la France face à l'américanisation, qui relève de la culture politique française. Et notamment de la résistance du modèle français face aux USA. On lit beaucoup, et on n'a pas tort hein, de lire les choses aussi, le modèle social français ne serait pas tout à fait identique au modèle anglo-saxon. Mais s'il n'est pas tout à fait identique au modèle anglo-saxon, excusez-moi, moi je suis à Sciences Po, donc je suis politiste, et je m'intéresse à la question politique, c'est tout simplement parce que la conception du rôle de l'État au sein même des régulations sociales ou des rapports sociaux est assez particulière à la société française, contrairement à d'autres pays, et notamment aux États-Unis, mais aussi à la Grande-Bretagne, voire à l'Allemagne, où on a un système très décentralisé au niveau des Länder, c'est-à-dire des régions. Si je prends des pays comparables au point de vue démographie et économique. Effectivement, l'État, en France, le rôle qu'il a reçu dès la libération et qui fut une sorte d'héritage du CNR, entre autres, a permis à la France, en parallèle à ce que je disais concernant la CGT et les mouvements sociaux durant les Trente Glorieuses, donc l'État a permis à la France, effectivement, de constituer un modèle radicalement distinct de ce que aurait voulu en faire le pouvoir politique américain. Pour quelle raison? Alors ça, effectivement, on a quelqu'un comme Rosan Vallon, d'ailleurs, qui a beaucoup étudié à la fois la Révolution française et le contexte des Trente Glorieuses. Il a une belle formule quand il dit, en 1945,